Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, érosion, sécheresse, inondation. Les changements climatiques ont un effet direct sur les finances publiques et ils en auront de plus en plus. Mais l'adaptation des budgets, de la finance, ne suscite pas encore autant d'attention qu'il ne le faudrait, selon Mia Hamsi, directrice générale de l'Institut du Québec, qui publie aujourd'hui un rapport sur l'intégration des risques climatiques dans les finances publiques du Québec. Nous la recevons en deuxième moitié de l'émission. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Et bonjour Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Dis-moi, la contribution santé ou ce qui a été aussi appelé le vaccin impôt, ça passe pas là, dans les partis d'opposition, c'est rejeté. Les deux, comme dirait François Legault, le PLQS a refusé ça.
Oui, exact. De façon plus claire, je te dirais, du côté de Québec solidaire qui refuse là, cette contribution, du côté de Dominique Anglade, est un petit peu moins catégorique, mais elle a dit quand même, je vois pas comment on pourrait appuyer cette initiative. Elle craint là, qu'on remette en cause l'universalité des soins, un principe important. Même chose un peu pour QS, qui soutient que ce n'est pas une stratégie efficace de sortie de crise, que c'est vraiment juste comme un geste politique. Mais écoute, moi, Antoine, je n'y crois pas, de toute façon.
Non, hein?
Et si le gouvernement, finalement, écoute, le fait, là, ben là, je dirais que j'ai eu tort, mais j'ai écrit à l'automne, vers la fin de l'automne, une chronique qui s'appelait Dubé le bluffeur, que M. Dubé n'a pas aimé, n'a pas apprécié. On n'aime pas en politique se faire accoler une étiquette, mais c'est ce qui était arrivé quand on a fait un ultimatum pour la vaccination obligatoire des employés en santé. On s'est présenté, on a fixé une date. À cette date-là, on a dit ben, on va repousser à une autre date. À l'autre date, non, on ne l'a pas fait. On a abandonné cette idée-là. Et quand je questionnais les proches de François Legault en leur disant mais c'est dangereux de faire ça, un gouvernement perd sa crédibilité, que M. Dubé lui-même, comme éventuel négociateur dans l'avenir, dans des dossiers en santé, va perdre de la crédibilité s'il lance un ultimatum, puis après ça, il laisse tomber.
Oui, oui.
Et on me disait c'est pas grave. Parce qu'on est sûr qu'en faisant ça, on a réussi quand même à convaincre quelques employés du réseau de la santé de se faire vacciner et qu'ils ne l'étaient pas.
Donc, le bluff peut être utile.
Oui, c'est ça. Eux trouvaient que la fin justifiait les moyens. On se disait, même si on n'a pas tout le monde, on a réussi quand même à en convaincre davantage en montrant un peu les muscles, tu vois. Et pour moi, tu sais, j'étais en vacances quand cette idée-là a été présentée en conférence de presse par le gouvernement. Et je regardais ça. Puis en plus, tu sais, Il le présente sans dire ça va être combien le montant d'argent, ça va être appliqué quand, de quelle façon, rien, zéro. Puis là, on nous dit, ben, il va y avoir un projet de loi, vous allez voir. Moi, là, je te dis, j'ai vraiment mon feeling, c'est que ça n'arrivera juste pas, que c'est un moyen de encore une fois, d'essayer de presser le citron psychologiquement, puis de faire en sorte que les gens à qui on refuse déjà quand même l'accès, par exemple, au restaurant quand ils seront ouverts, là, et au cinéma, salle de spectacle, et maintenant aux grandes surfaces quand la vérification est bien faite. Mais je pense qu'on continue comme d'essayer de les contraindre en disant, regardez, là, vous allez même payer un montant d'argent si vous ne le faites pas. Mais de toute
ça
façon,
prend un projet de loi, puis ben, déjà un projet de loi sur la santé là, qui va commencer justement à être discuté la semaine prochaine. Hein, c'est sur l'offre de services de première ligne par les médecins omnipraticiens. Est-ce qu'on insérerait ce vaccin impôt dedans? On nous a dit que ce serait un nouveau projet de loi. En tout cas, est-ce qu'il va y avoir du temps parlementaire? Moi, c'est la question que je pose pour tout étudier ça. Parce que la session se termine en juin, puis il y a bien d'autres projets de loi à passer.
Ben oui, puis ce sont les derniers mois de ce gouvernement. Il ne faut pas l'oublier, c'est la dernière session parlementaire avant la prochaine élection.
C'est ça.
Ils ont des choses à adopter, ne serait-ce que, par exemple, la réforme de la loi 101, dont ils... ils veulent s'enorgueillir, ben il faut qu'ils soient adoptés. C'est un exemple parmi d'autres. Mais moi, écoute, je te dis, là, je pense que c'est une menace pour laquelle ils diront plus tard, ben quand même, ça valait la peine parce qu'on a peut-être réussi quand même à amener des personnes non vaccinées.
C'est un épouvantail, hein? C'est une sorte d'épouvantail qu'on brandit, là, pour dire, oh, puis ensuite, on va le retirer en disant, bah, c'est peut-être plus compliqué qu'on pense.
Moi, je le perçois comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde. Il y en a, là, on parle beaucoup de l'Autriche, et puis je regardais, là, avant notre enregistrement, en Autriche, d'ailleurs, c'est quand même pas encore fait. C'est-à-dire que là, la vaccination obligatoire va entrer en vigueur en février et on dit que ceux qui ne le font pas sont passibles d'amende. Est-ce qu'ils vont vraiment se lancer à la chasse des non-vaccinés pour imposer ces amendes-là ou ça sera... J'ai hâte de voir. Mais il y a tellement peu d'exemples et puis il y a des choses qui se font ailleurs dans le monde qu'on ne fait pas au Québec. Moi, je n'y crois pas vraiment. Je pense que ça n'arrivera pas. Et voilà, bon, l'avenir le dira. On sera fixé quand même assez rapidement en février là-dessus.
Voilà. Deuxième sujet, Rémi, le troisième lien. Hey, tu sais qu'on n'a pas encore fait notre débat, notre face-à-face, notre métal sur le sujet. Ça me fait penser. Mais je referme cette parenthèse-là. Et oui, le défi tient toujours.
Ça prendrait comme deux émissions parce que ça va prendre plus que 12 minutes.
Oui, c'est ça. Mais là, c'est le Parti libéral du Québec qui est un peu empêtré avec, je dirais, qui est peut-être en train de s'enterrer même dans le tunnel.
Oui, écoute, moi, je trouve que c'est quand même tout un revirement. Avant l'élection précédente, Philippe Couillard et les libéraux, ils avaient décidé d'appuyer un projet de troisième lien. C'est eux qui ont créé le bureau de projet pour ça. Avec Véronique Tremblay, qui était ministre délégué au transport, ils ont mis de l'avant des scénarios. Il y avait 5 scénarios, je me rappelle bien, qu'ils ont mis à l'étude. Ils se sont vraiment lancés là-dedans. Et là, bon, on a senti depuis Dominique Anglade beaucoup de réserves. Ils étaient contre le projet présenté par la CAQ, mais on avait l'impression qu'éventuellement, ils auraient à se positionner à un moment donné pour dire, mais qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes contre ce projet-là de tunnel précis? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme solution? À moins de nier tout simplement qu'il y a un problème de congestion routière entre Québec et Lévis et même aussi un besoin d'augmenter le transport en commun. Puis là, ben Dominique Anglade, ce matin, je trouve qu'elle est allée encore un peu plus loin en disant qu'elle l'a admis là, publiquement, qu'il n'y aurait pas nécessairement de nouvelles infrastructures dans la vision des libérales du problème de circulation de Québec et Lévis. Elle dit que ça passe par l'amélioration des deux ponts actuels. Moi, personnellement, je vois mal comment... Bon, il reste du temps, il reste des mois là, avant la prochaine élection, mais il va falloir qu'ils pensent à quelque chose, parce que je vois mal comment ils vont se présenter devant l'électorat de la grande région de Québec, où ils n'ont plus aucun député, et dire, ben nous, on est contre le projet de tunnel de la CAQ, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on ferait.
C'est ça. Ouais. C'est un vrai problème. On l'a vu même pour un parti comme le Bloc québécois. Ça a été très difficile, le troisième lien, dans la dernière élection fédérale. Il fallait se positionner. Alors, c'est vrai que c'est même si tu connais mes positions sur ce sujet-là, il pourrait proposer quelque chose comme une nouvelle infrastructure, mais uniquement un métro, une genre de ligne jaune ou une ligne... On le sait, à Montréal, là, il y a deux lignes. Il y a celle qui va vers Laval, il y a celle qui va vers Longueuil. Et pourquoi pas faire ça en dessous du fleuve? Pourquoi ce ne serait pas une position libérale? C'est sûr que ça coûterait moins cher qu'un tunnel autoroutier de 8 km à plusieurs voies et à plusieurs étages.
Et à noter que Québec solidaire continue de se dire, là, je vais prendre leur mot, parlable là, pour un projet uniquement de transport en commun.
Oui.
Bien que, je dis, si c'est un tunnel, c'est quand même encore toujours bien du béton. Là, ça prend du béton pour faire un tunnel.
Mais si c'est un métro... Tu sais, tu t'enlèves des personnes de la circulation, tu peux diminuer, évidemment, le nombre de voitures sur les ponts à ce moment-là. Puis de toute façon, des camions, là, ils ont souvent des cargaisons qui empêchent d'aller dans les tunnels. Ouais, en tout cas, je veux pas faire le débat, Rémi, je suis parti, là, mais...
Mais écoute, je suis certain, moi, tu sais, j'avais eu des discussions avec des proches, la chef, Puis on me disait, on ne va pas nécessairement présenter une solution lors de la prochaine campagne électorale. Puis moi, je te dis, je trouve ça un peu aberrant. Surtout qu'ils ont eu le temps d'y penser, là, depuis que la CAQ est au pouvoir. En même temps, tu sais, on me dit, est-ce qu'on on n'a pas toutes les données auxquelles le gouvernement a accès maintenant? Est-ce qu'on peut vraiment comme dessiner quelque chose sur le coin d'une table? Est-ce que ça peut être vraiment sérieux? Je comprends ça, là, mais c'est parce que tu sais, si tu aspires à prendre le pouvoir, il faut que tu sois capable de dire aux citoyens où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, dans un dossier comme celui-là. Et je répète, ils ont eu beaucoup de temps, donc je trouve ça étrange de les voir naviguer dans le flou, là, à souhait. Je peux te dire que même à l'intérieur du caucus, il y en a qui se posent des questions, tu sais, qui se disent, OK, là, le virage à gauche, là, mais ils sont conscients qu'il faut quand même avoir des solutions concrètes là, pour des enjeux.
Ils pourraient demander à Véronique Tremblay, l'ancienne députée qui avait fait faire, là, je pense, 5 scénarios, en tout cas.
Oui, c'est ça. Je
troisième sujet, mais très, très rapidement, Rémi, l'élargissement de la consigne. C'est encore repoussé. Moi, la consigne, j'aime ça, là. Je suis favorable. Qu'est-ce qui se passe?
Moi aussi, et je suis déçu, et je me demande si là, la COVID n'a pas le dos trop large, mais en même temps, Benoît Charrette l'a annoncé aujourd'hui, on devait avoir pour l'automne prochain l'élargissement de la consigne pour faire en sorte que tous les contenants là, de jus, les trucs à boire, et même les bouteilles de vin... Là, c'est
mais oui, les bouteilles de vin, c'était quelque chose, ça, oui, c'est
ouais,
un débat. Oui,
25 cents pour les bouteilles de vin, et là, Benoît Charrette dit que... L'industrie a trop souffert déjà de l'impact de la pandémie et on veut leur permettre de souffler un peu et pas leur mettre cette échéance-là trop serrée dans les pattes. Ceci étant, monétairement, les épiceries, la SAQ, ils n'ont pas souffert de la pandémie. Au contraire, ça, c'est, à un moment donné, il n'y avait que ça dans la vie. Là.
Ben oui.
On dépensait en masse à l'épicerie. C'est pas un problème. Mais il semble que c'est peut-être plus en termes de main-d'œuvre. Il y a des épiceries qui disent on a déjà du mal, il y a des employés qui s'absentent en raison de la COVID, on a du mal à recruter, ça prend du monde, vider les gobeuses, les machines, etc. Je suis un peu sceptique quand même, tu sais à quel point ça prenait quand même du courage politique pour l'imposer. Les libéraux avant la CAQ en avait parlé souvent, mais ne l'avait pas fait.
Ouais.
Moi, j'étais content. Je trouvais que Benoît Charrette avait été courageux. Là, je trouve ça un peu étrange, ce report. Il aura vraiment à s'expliquer, je pense, encore de façon plus précise sur comment ça se fait là, que l'industrie...
Oui, puis le BAP, hier, reprochait justement au gouvernement de ne pas diminuer les tonnes de matière qu'on enfouit à chaque année. L'enfouissement continue. Ça continue de croître constamment.
Exact.
Bien. Hey, merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle demain.
À demain, Antoine.
Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal.